On va parler des petits gris à présent. Effectivement, c'est la grisaille. Hein. Cela porte bien son nom avec le rapport publié lundi soir sur les agressions sexuelles au sein de la communauté religieuse des Frères de Saint-Jean, qui souligne le rôle central exercé par son fondateur. Le père Marie-Dominique Philippe, figure très connue des années 60-70, et qui dénonce la dimension systémique des agressions. Le prieur général était venu nous parler hier de ce rapport de 800 pages, hein, c'est considérable, avec des statistiques, et puis des chiffres que vous allez commenter, bien sûr, hein, je vais peut-être les énoncer, je vais vous laisser les énoncer, mais qui montrent quand même un caractère massif, avec 167 victimes de frères qui ont été dénombrées, et puis 72 frères qui ont commis des abus depuis que cette communauté existe, communauté nouvelle depuis 1975. Antoine Assaf, Guy Barret, Philippe Clancher. Philippe.
Oui, effectivement, c'est la suite d'un très sinistre feuilleton, puisque ça fait quelques années qu'on parle des difficultés de la communauté, des communautés Saint-Jean. Alors, au-delà, effectivement, de ce qui avait déjà été révélé sur le caractère des agressions sexuelles nombreuses dans cette communauté de la part de diverses personnes. Ce qui est assez fou, c'est toute la théologie qui a été développée par ce mouvement pendant de très nombreuses années. Alors, on parle évidemment de l'histoire du fameux amour d'amitié qui permet à un supérieur de tripoter, excusez-moi les termes, comme il veut, ses disciples, ses acolytes, avec des argumentaires mystico-délirants. Cette confusion extraordinaire entre le supérieur d'une communauté et le confesseur, enfin c'est une base de la vie religieuse, que le fort interne, le fort externe, tout ça c'est de la base.
Expliquez peut-être juste cette distinction.
C'est connu, c'est normalement quand on a, que dans le monde religieux, quand on a un supérieur, c'est le supérieur qui donne les instructions, enfin avec qui on a des relations de subordination, mais tout ce qui est vie spirituelle et progrès intérieur doit être géré différemment, puisque dans le secret de la confession, il y a quand même des choses qui sont très intimes d'un parcours personnel, et de fusionner les deux responsabilités dans un certain nombre de congrégations comme ça, où on oblige les membres à avoir un confesseur à l'intérieur, donc qui peut tout transmettre. Ça veut dire que les gens sont totalement coincés, n'ont aucune liberté. Voilà, on va rajouter un espèce de culte de chef délirant, où le culte est quand même l'équivalent de Jésus et de Dieu. Tout ça, c'était connu, et pendant des décennies, l'Église a laissé faire, sous prétexte que, évidemment, ces communautés rendaient un certain service, puisqu'ils faisaient venir beaucoup de vocations, ils redonnaient du dynamisme, et tout le pontificat de Jean-Paul II est marqué par ça. C'est quand même, aujourd'hui, on se rend compte du drame humain que ça a fait. Aujourd'hui, il y a une communauté qui est complètement bouleversée, il y a des victimes partout qui souffrent, qui sont encore à l'intérieur ou qui en sont partis, et là, effectivement, la vraie question, c'est est-ce que cette communauté peut continuer aujourd'hui, avec tout ce passif à la fois historique et dans les fondements théologiques, quand bien même il serait largement révisé. Et voilà. Et bon, on a un exemple à côté qui est la communauté du Verbe de vie, où la décision finalement de l'Église a été la dissolution. Là, la vraie question, c'est est-ce que la communauté de Saint-Jean peut continuer ? Voilà. Mais c'est une vraie question.
Qui barraque ? Antoine Assaf.
Je vous avoue, j'ai bien connu le fondateur, le père Philippe. Nous avons philosophé ensemble à la Sorbonne et j'ai participé à donner quelques conférences à ce centre qu'il a appelé le CEFI, Centre d'études philosophiques, rattaché d'ailleurs par convention à la Sorbonne. Et j'ai eu plusieurs conversations avec lui. C'était quand même pendant 20-25 ans. Hein. Je ne suis pas devenu petit gris, je préfère m'habiller en blanc. Et que mon âme soit à Dieu plutôt qu'au diable. Les choses qui m'intéressaient en lui, c'est que c'était une belle intelligence, grand travailleur, mais il y a plusieurs choses. La première que je voudrais dire, que presque comme un témoignage, c'est que dans ses sermons, il y a toujours un mot qui revenait, et tous les moines le savaient, « Nous sommes fragiles !» Là, j'imite, il n'est pas avec nous, hein. « Nous sommes fragiles !» Alors, cette fragilité m'a intrigué un jour, j'ai été le voir. Et je lui dis, « Père Philippe, mais cette question de fragilité, quand même dans la mystique chrétienne, et vous êtes d'accord d'ailleurs, il y a l'acte de volonté, on peut dépasser une fragilité. » Je n'ai pas précisé quel ordre de fragilité, mais j'ai joué un peu le Libanais provocateur, je lui parlais d'Abélard. « Ah, nous sommes fragiles !» Je lui dis « Si, un moine !» Et là, je ne savais pas pourquoi j'ai eu cette intuition, tombe dans l'erreur de ce vœu de chasteté. « Ah, là, c'est là où nous sommes le plus fragiles !» J'ai tout de suite, j'ai intuitionné ce qui se passait. C'est-à-dire, je ne vais pas parler des moines maronites ou des prêtres maronites dans les séminaristes qui ont le droit de se marier et qui disent « Nous en avons dans la soutane, fêtez-nous la paix, les prêtres orthodoxes !» Non, j'ai vu cette notion. C'est que finalement, il n'y a pas de théologie, Philippe Nigui. Ça ne parlait pas d'amour d'amitié. Je parle de ce concept d'une fragilité qu'on assume et que son frère Thomas, d'ailleurs, à l'eau vive et dans l'autre, justement, l'Arche, où il recrutait des officiers de l'école navale canadienne ratée, là, Jean Vanier, dont j'ai deviné la fragilité. Écoutez les discours de Jean Vanier, c'est tout le temps « Nous sommes fragiles !» sans accent québécois, comme notre journaliste de CNews. Hein. Et ça, cette notion de la fragilité là, sans l'acte de volonté, la fragilité sans la volonté nous ramène au paradoxe d'Albert Camus. Extraordinaire. Camus, qui a vécu la violence d'Algérie, il a dit « Toute violence vient de l'ignorance. Mais celui qui sait, qu'est-ce qu'il va faire ?» Ah, c'est là où il est génial, Camus. C'est lui qui sait, il va remplacer la violence par une puissance qui éclaire son acte. Et à ce moment-là, à la puissance, il va préférer un geste généreux. Il va, et dit-il, préférer l'exemple. Ils n'ont jamais donné d'exemple. Et vous avez raison, Guy, j'ai eu d'autres moines, celui qui a été réduit à l'état laïque, Gouthière et d'autres, malheureusement, qui ont suivi, vous avez dit le verbe contaminer, moi je dirais endoctriner, n'est-ce pas ? Comme beaucoup l'ont fait. Et à partir de cette notion, nous sommes fragiles, eh ben, nous allons finir par donner temps par le viol. Carrément le viol d'autres moines et le viol de ces jeunes filles qui, sous l'emprise de cette puissance spirituelle, finissent. Il y a eu beaucoup, beaucoup de témoignages extraordinaires. Ce que je conseille aux petits gris, ayant été leur ami, un, changer le nom de la communauté. S'ils veulent, ils peuvent mettre les rescapés de la communauté grise. Je ne sais pas, qu'ils trouvent un nom, mais qu'on ne parle plus de Saint-Jean et de Petit-Gris. Et que le fondateur que j'ai écouté en dialogue avec toi, cher lui, il propose à Rome une nouvelle refondation, parce qu'il y a encore des moines et des religieuses qui croient que le père Philippe est victime d'un complot.
Alors la fragilité, donc, ce que nous dit Antoine, ça sert de quoi, d'alibi, en fait, d'auto-justification ? Comment est-ce que vous interprétez propos ?
C'est très intéressant ce que dit Antoine, de se présenter comme fragile, mais alors là où il y a une contradiction extraordinaire, c'est que s'ils disent que ce modèle est fragile, qu'on fait ce qu'on peut, pourquoi l'Église catholique, pendant 30 ans, nous a montré ça comme le modèle absolu ? Et le discours, c'était « Regardez les frères de Saint-Jean, ils y arrivent, ils sont des vocations, ils sont dynamiques, c'est la vraie foi, sous-entendu, pas les dévoiements issus de mai 68 et le christianisme de gauche et tout ça. » C'était ça, le discours. Et moi, le grand problème, c'est qu'à cette époque-là, l'Église était incapable de penser un regard critique, de regarder et de voir quelles étaient, d'abord d'écouter les victimes, mais ça à l'époque ça se faisait pas, et encore moins de regarder quels étaient les discours et quelles étaient les justifications. Parce qu'à la limite, que dans un groupe, il y ait des gens qui essaient de faire passer leur pulsion, leur désir, leur fragilité, de mettre des mots de philosophie et de théologie dessus, c'est humain, ça a toujours arrivé. Le drame, c'est l'absence de contrôle. Et je crois que c'est dans la culture catholique, comme dans toutes les cultures, quand il n'y a pas de contrôle, de contre-pouvoir, de regard un peu froid sur ce qui se passe, et d'oser une parole qui va à contre-courant, puisque là, il aurait fallu effectivement être courageux. Dire du mal des frères de Saint-Jean dans les années 80-90, c'était contre-intuitif, c'était difficile. Mais il suffisait de regarder que Thomas Philippe est condamné par Rome en 1956, il est interdit de ministère. Il a continué à fonder l'Arche après.
Donc Rome a bien agi.
Marie-Dominique Philippe a condamné aussi, il a sanctionné aussi Marie-Dominique Philippe. Oui, mais ces sanctions après, elles sont oubliées, parce que ça n'arrangeait pas les Dominicains de faire passer ces sanctions. Mais quand on pense que jusqu'en 2013, il y avait un procès en béatification qui était en cours pour Marie-Dominique Philippe, alors qu'ils avaient été condamnés, c'est absolument effarant. Donc pour aujourd'hui, regardons ce qui se passe. Tout le monde doit être interrogé. Il n'y a pas de saint dans cette Église aujourd'hui. Tout le monde doit être regardé pour éviter les grandes souffrances.